qui nous importe, c'est l'histoire. La grande, avec un H majuscule.
La garde nationale.
La garde nationale, c'est la garde du peuple. Et cette garde peut se reconstituer à tout moment.
On croyait la garde nationale morte et enterrée après son implication dans la Commune de Paris. Eh bien, à Versailles, devant le Congrès, François Hollande a réveillé le mot. La garde nationale, c'était entre 1789 et 1871 un service armé demandé aux citoyens. Il s'agissait à la fois de constituer une force de maintien de l'ordre et une réserve militaire. La garde nationale tenait des deux mystiques de l'époque, la mystique exaltante du peuple en armes et la mystique implacable de la défense de la propriété. Au nom de celle-ci, nombre de citoyens ont souvent été tenus à l'écart de la garde nationale quand ils n'ont pas été traqués par elle. Au nom de celle-là, la mystique du peuple en armes, la garde nationale a joué un rôle important dans l'établissement de nouveaux régimes, comment dire, plus ouverts en 1830, en 1870. François Hollande avait-il en tête toute la complexité de cette histoire quand il en évoqua le fantôme le mois dernier? Sans doute, l'idée qu'on lui a suggérée se heurte-t-elle à trop de difficultés pour être mise en œuvre, mais elle participe d'un mouvement de renouveau de l'engagement au service du pays. D'un côté, les recrutements dans l'armée progressent, de l'autre, le service civique est appelé à s'étendre. Il pourrait y avoir un troisième terme, le service civico-militaire.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Mathilde Larrère, bonjour.
Bonjour.
Que les PUF, les presses universitaires, ont lu, c'était votre thèse sur la garde nationale qui attendait un éditeur depuis le début du millénaire, et qu'elles éditent la garde nationale, l'urne et le fusil, ou le fusil et l'urne. Vous allez nous expliquer dans un instant le sens de ce double mot. Alors, ça va avoir un inconvénient à notre émission. Vous nous pardonnez, Mathilde Larrère, on va fonctionner avec des photos, presque des clichés. Il faudrait un film. Il faudrait même rembobiner le film très en avant, évoquer avant la garde nationale les milices qu'il y avait dans les communes, dans les villes.
Oui, sauf que ces milices ne sont pas vraiment l'origine de la garde nationale, même si longtemps on a voulu faire croire qu'elle l'était, parce qu'en fait la garde nationale c'est le dépassement révolutionnaire de systèmes de milices qui est hérité de l'époque médiévale et moderne. La création de la garde nationale, c'est le transfert de la souveraineté du roi à la nation, c'est le refus du monopole de la violence légale par le roi, alors que ces milices c'était pas du tout le cas. Donc la garde nationale, par sa nature citoyenne, est fondamentalement le dépassement révolutionnaire de tout ce qui précède.
J'aime bien quand vous parler théoriquement du dépassement, mais les gardes nationales, parce qu'il y en a en province et à Paris, elles sont nées tout simplement et confusément des désordres de l'été 1789.
Elles sont nées de deux choses. Elles sont nées d'abord du fait que la Révolution voulait se défendre, parce que la Révolution était menacée par le roi. Et si le 13 juillet, les édiles parisiens créent la garde nationale, c'est parce qu'il y a des armées royales, des régiments autour de Paris, et qu'ils veulent protéger la Révolution, le peuple parisien, de ses troupes. Mais aussi, elle est née, parce que de toute façon, elle est toujours complexe, la garde nationale, elle est née aussi du désir de mettre fin à des pillages, à des attaques, parce que dans un contexte de pain très cher et de crise frumentaire, le peuple avait faim, s'en prenait aux octrois, s'en prenait au stock de grains, et les édiles qui étaient des bourgeois voulaient aussi protéger les biens. Donc elle est née de ces deux choses.
Sous le signe, on va le retrouver présent constamment pendant toute cette émission, de la contradiction. Alors Lafayette, qui en a été le premier chef, essayait de surmonter cette contradiction. Le mot fédération lui était très cher. Le 14 juillet 1790, on essaye de faire monter, et on fait monter à Paris, les gardes nationales de toutes les provinces pour les fédérer avec celles de Paris, Lafayette étant une sorte de chef fictif de quelques millions d'hommes en armes.
Alors, elles ne sont pas fédérées avec Paris, elles sont fédérées toutes entre elles. Donc le processus de fédération, il s'agit pas, c'est pas un processus de centralisation. Maintenant, effectivement, elles montent à Paris. Et par ailleurs, Lafayette, pendant la Révolution française, ne sera jamais et ne voudra jamais être le commandant des gardes nationales du royaume. Il ne sera jamais que le commandement des gardes nationales de Paris. C'est seulement sous la monarchie de Juillet, dans un contexte différent, qu'il va accepter, arguant du côté provisoire et nécessaire, d'être le commandant en chef des gardes nationales du royaume.
On parlera tout à l'heure de votre objet de prédilection, la monarchie de Juillet, mais on reste dans les années 91-92. Peu à peu, la popularité de Lafayette va voler en éclats. Et ici, nous sommes dans le film La Marseillaise de Jean Renoir. Déjà, Lafayette n'est plus le chef des gardes nationales. Puis on sent bien qu'à chaque émeute, à chaque problème chaud, les gardes nationaux, selon leur quartier, leurs accointances, ont des comportements différents. Et ils portent le même uniforme, est-il dit, et puis ils vont s'opposer.
Nous allons exécuter la charge en 12 temps. Attention. 1. Chargez vos armes. La main gauche à la hauteur de la première capucine. La main droite à la poignée. L'avant-bras contre la crosse. 2. Ouvrez le bassinet. 3. Prenez la cartouche. 4. Déchirez la cartouche. 5. Amorcez, mettez la poudre juste de quoi remplir le bassinet. Ensuite, entre le pouce et l'index, fermez bien le papier de votre cartouche. 6. Fermez le bassinet.
Elle faillira. Voyons, il est inconcevable que cette canaille vienne faire la loi jusque dans les Champs-Élysées. Vive la nation!
Vive le roi!
Vive la nation!
Vive le roi!
Arrête-toi, citoyen. Je m'arrêterai aussi. Je voudrais te poser une question. Pourquoi nous battons-nous? Tu portes le costume de garde nationale et moi aussi.
Oui, mais toi tu es un républicain. Moi je suis un partisan de l'ordre.
Défends-toi, misérable, anarchiste.
7, l'arme à gauche. 8.
Alors, on peut donner une formation militaire, Mathilde Larrère, mais la formation civique, qui est celle qu'on acquiert dans la garde nationale, vous pousse à l'insoumission en même temps qu'à la discipline.
Mais en même temps, c'est normal parce que la garde nationale, elle est instituée pour assurer le droit de sûreté, qui est un droit qui est proclamé dans la Déclaration des droits de l'homme de 89. Le droit de sûreté, c'est à la fois la sûreté des biens et des personnes, mais c'est aussi et d'abord la garantie des libertés individuelles. Et découle de cette garantie des libertés individuelles, donc de la protection contre l'arbitraire, le droit de résistance à l'oppression. Donc la garde nationale, elle est des deux côtés, elle défend l'ordre d'une certaine façon, mais comme elle défend les libertés et que les libertés peuvent être oppressées, par conséquent, elle peut être aussi une force entendue de désordre, mais en réalité, qui est juste ce qui sera après théorisé comme droit à l'insurrection, mais qui est la résistance à l'oppression.
Nos auditeurs ont noté ce mot « sûreté » qui a disparu du vocabulaire, même du vocabulaire de Madame Taubira, qui, il y a peu de mois, l'utilisait encore souvent pour distinguer sûreté et sécurité. La République d'après le 9 Thermidor va réduire la garde nationale à une milice, si je peux employer le mot, de contribuables, chargée du maintien de l'ordre à Paris. Bonaparte lui préfère sa grande armée, mais la laisse quand même avec un rôle de réserve militaire. Elle survit sous la Restauration, même si Charles X la dissout un moment à Paris en 1827, et elle renaît avec un rôle très important sous la monarchie de Juillet, l'objet de votre livre, la garde nationale, l'urne et le fusil. Alors vous êtes très familière de la période. Voici un petit cours par le commissaire Bourrel et l'inspecteur Arnaud, en duo, parce qu'il leur est arrivé, dans un épisode exceptionnel des 5 dernières minutes, de se projeter en arrière dans les années 1830.
C'est dans le décor des mystères de Paris qu'on fait notre enquête aujourd'hui.
Eh oui.
Ah mais dis donc, ça nous reporte en 1800 et quelques, ça.
Et autour de 1830.
C'est Louis-Philippe, ça.
Ah, bravo, bravo. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui se passait sous Louis-Philippe?
Ah, ça, là...
Tu sais, ça.
Ah oui.
Eh bien, il y en a un qui va nous le dire. Hein? Alors, Antoine, tu la sais, ta leçon?
Oui. En 1830, le duc d'Orléans est nommé lieutenant général du royaume, puis roi des Français sous le nom de Louis-Philippe Ier. Son règne dura 18 ans et fut agité par de violentes émeutes et de nombreuses conspirations. Durant cette période, le plus fidèle soutien du régime fut la garde nationale, où étaient enrôlés tous les citoyens qui payaient l'impôt. Ils étaient désignés à tour de rôle 4 ou 5 fois par an pour monter la garde et patrouiller la nuit dans les rues.
Oh mon Dieu, en ce moment, la compagnie se réunit pour l'élection de son capitaine. Étant candidat, j'ai trouvé plus digne de ne pas assister à la réunion, mais je suis sur des charbons. Oh, capitaine, capitaine, et si la patrie était en danger, je pourrais voler à son secours en criant « Brossard !»
Je suis un joli soldat de la garde nationale. Je n'aime pas le scandale et c'est protéger l'État.
Et avec donc de simples gardes qui élisaient leurs officiers, le fleuriste Coquenard, on était il y a un instant dans l'opérette André Messager bien connu, Véronique, rêvait d'avoir des galons. Une fois qu'il sera élu, il ira aux Tuileries invité à un bal par le roi Louis-Philippe. Parce que la garde nationale faisait partie des bases consacrées à la légitimité du régime de la monarchie de Juillet.
Bah oui, en fait, c'est pas la monarchie de Juillet qui recrée la garde nationale, elle sort de la révolution de Juillet. La garde nationale, de toute façon, dans son histoire, est très souvent fille des révolutions.
Mais Louis-Philippe, quand il rappelle, je suis un ancien garde national de la révolution, je viens rendre visite à mon général de l'époque de la Révolution, Lafayette, parce que Lafayette, Rodivivus, il revient là.
Il revient. Enfin, il revient pas très longtemps, hein, parce qu'il va se faire assez vite dégommer. Mais mais de toute façon, Louis-Philippe passe son temps à se servir de la mémoire de 1789. Et comme la garde nationale a été créée, qui plus est, la veille de la prise de la Bastille, à laquelle elle a plus ou moins participé, donc on en a fait son acte de baptême, être garde nationale en 1830, c'est très prestigieux, hein, de toute façon.
Révolution de Juillet, colonne de Juillet à la Bastille, etc.
Oui. Donc la garde nationale, elle sort de la Révolution, mais elle sort souvent de la Révolution pour remettre de l'ordre, en fait. Mais un ordre qui va être accepté, parce que au sortir de la Révolution, on n'accepte pas un ordre qui est mené par l'armée ou qui est mené par d'autres forces de l'ordre qui, juste avant, ont réprimé le peuple. Donc, on sort du peuple une garde citoyenne aux côtés de l'ordre, et ça permet de faire accepter cet ordre au lendemain du phénomène révolutionnaire.
Le soldat qu'on entendait chanter, Élie, le capitaine Coquenard, le soldat n'a pas toujours le droit de vote. C'est ça la question. Le droit de vote aux élections législatives pour désigner les députés du Parlement. Il n'y a pas nécessairement coïncidence de la citoyenneté combattante de la garde nationale et de la citoyenneté politique.
De l'urne et du fusil.
L'urne et le fusil. C'est le titre d'un livre, non ?
Oui, c'est ça, oui. Donc oui, alors, sous la Révolution française, c'était les citoyens actifs, hein, du moins jusqu'à 92 quand on a du suffrage universel, mais seuls les citoyens qui avaient le droit de vote pouvaient être garde nationale et avaient le devoir d'être garde nationale. Donc l'héritage de la Révolution française couple la citoyenneté dans les urnes avec la citoyenneté en armes. La monarchie de Juillet va pas reprendre tout à fait cet héritage parce que elle recrée la garde nationale, elle donne aux gardes nationaux le droit d'élire leurs officiers, ce qui était une revendication importante, mais elle ne donne pas aux gardes nationaux, sauf s'ils en avaient les moyens financiers, mais le sens était très élevé, la possibilité d'élire les députés. Donc elle introduit en fait une différence entre des gardes nationaux qui ont véritablement tous les droits politiques et des gardes nationaux qui n'en ont pas. Ce qui fait que pendant toute la monarchie de Juillet, la garde nationale sera l'espace des frustrations d'une grande partie des classes moyennes et même des classes, une partie des classes populaires, parce qu'on descend très bas hein, pour rentrer dans la garde nationale, qui, tout à la fois, on leur donne une place, on leur fait jouer un rôle, on reconnaît même la légitimité qu'ils confèrent au pouvoir, et en même temps, on leur donne pas de bulletin.
Donc, ce qui fait que le roi Louis-Philippe aura peu à peu des difficultés à se produire devant sa base supposée, devant la garde nationale. Et c'est en 1840 la dernière revue qu'il ose faire passer de la garde nationale. On entendait le fleuriste Coquenard se rengorger comme un coq, mais si on regarde la littérature et la caricature contemporaine, on voit qu'il y a une certaine lassitude qui naît de la vie dans la garde nationale. La lassitude, elle vient pas seulement de la contradiction entre citoyenneté combattante et citoyenneté politique. Elle vient des obligations très rigoureuses de la garde nationale.
Alors, il y a les deux. Parce qu'en fait, il y avait tout un tas de Parisiens, on les appelait à l'époque les Tamerlans, qui aimaient beaucoup la garde nationale. Parce que, pour la plupart de ces hommes, la garde nationale, c'était effectivement 4-5 fois l'an, se retrouver entre copains, dans une salle, partager des vins, des mets, parfois des filles de joie. Donc c'était des sociétés d'hommes qui avaient leurs habitudes, leurs rites, leurs fêtes. On a beaucoup, par exemple, de testaments de gardes nationaux qui demandent que leur compagnie et leur capitaine viennent à leur enterrement. Ça peut être important dans beaucoup de vies parce que.
Oui, mais enfin, quand on lit Alexandre Dumas, c'est pas ça.
Oui, mais Dumas, lui, il a été artilleur, c'est particulier, il a connu l'artillerie.
Les infortunes d'un garde national.
Oui, parce qu'il se retrouve à l'hôtel des Haricots, qui est la maison d'arrêt de la garde nationale, parce qu'il faisait pas vraiment son service. Mais il y a effectivement des gardes qui trouvaient que patrouiller la nuit dans le froid et n'était pas exactement ce qu'ils avaient envie de faire 5 soirs par an. Mais pour d'autres, c'était vraiment quelque chose de... Mais ça relève de la sociabilité. Et puis, par ailleurs, il faut voir que le fait de servir dans la garde et donc d'être un citoyen en armes, c'était vécu très intensément, au point d'ailleurs que plusieurs fois, des femmes ont réclamé le droit d'être dans la garde nationale. Parce qu'on pense toujours que c'est l'urne qui est le moyen le plus intensément investi de participation à la citoyenneté, mais pendant une grande partie du 19e siècle, c'est l'arme qui est beaucoup plus vécue telle qu'elle.
L'urne et le fusil. En février 1848, la garde nationale refusera d'aller donner son sang pour le roi et participera de cette révolution qui veut élargir le droit de vote. Dans l'éducation sentimentale, j'ai essayé Flaubert, faute d'avoir eu du succès avec Dumas. Il y a un personnage ici interprété par Michel Deray, un officier de la garde nationale. Il est très très content d'avoir participé à la révolution de 1848. Il est vrai qu'on est encore à ce moment-là dans l'enthousiasme du début de cette révolution, au moment où tout le monde chante le chant des ouvriers de Pierre Dupont.
Notre République sera comme un souvenir d'amour. Nous aurons eu notre temps de rêve. C'est déjà ça dans une vie. Quoi qu'il arrive à notre pays, ça ne veut pas être pire qu'avant. On aura secoué pas mal de puces à pas mal de gens. Et désormais, ils auront peur de nous. La garde nationale, c'est la garde du peuple. Et cette garde peut se reconstituer à tout moment.
Ouvrons la lampe le matin, au clairon du coq se rallume. Nous tous, qu'un seul et un certain ramène la mort au mal en plume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse. Sans abriter au lendemain contre le froid de la vieillesse. Aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se désouvre.
La marche de l'histoire.
Du vent,
Jean Lebrun.
Du vent,
sur France Inter.
Avec Mathilde Larrère, nous parlons de la garde nationale, grand chantier historique. Votre livre sort bientôt au PUF qui lui est consacré, mais peut-être chantier politique dans ce temps où renaît l'idée d'engagement pour la patrie. On était en février 48 dans l'éducation sentimentale, sauf que en juin 48, un autre personnage membre de la garde nationale dans l'éducation sentimentale est rendu fou furieux par l'émeute ouvrière qui a fait suite à la suppression des ateliers nationaux. Sa devanture est endommagée et va tuer froidement un des émeutiers prisonniers. Toujours le même signe de contradiction qui entoure la garde nationale.
Oui, parce qu'en juin 1948, la garde nationale, elle est des deux côtés de la barricade. Il y a des compagnies de la garde nationale qui ont été aux côtés des insurgés de 1948, pour la défense de la République sociale, parce que c'est ça qui se joue en 1848, et d'autres qui étaient du côté des forces de l'ordre pour l'imposition de cette République conservatrice et libérale qui avait arrêté les ateliers nationaux.
Et la défense de la propriété.
Et toujours la défense de la propriété, exactement. Donc la garde, elle est divisée. Les hommes ont beaucoup suivi leur capitaine. C'est plus on travaille dessus, plus on s'en rend compte. Le juin 48 a été une émeute qui a été beaucoup travaillée et discutée avant que les gens s'engagent d'un côté ou de l'autre. Et les capitaines ont joué un rôle important et souvent les hommes les ont suivis. Après, de fait, c'est plutôt les légions de l'Est parisien, plus populaires, qui étaient du côté des insurgés et les légions de l'Ouest, les plus bourgeois, qui étaient du côté... Mais c'est pas aussi schématique que ça, en fait.
Allez, dernier moment... Là, c'est le dernier spasme. En 1851, la garde nationale s'était ralliée à Louis-Napoléon Bonaparte, mais elle va jouer un rôle dans la proclamation de la République et la chute de Napoléon III. Dernier spasme, dernier signe de contradiction. Elle va jouer un rôle dans la défense de Paris.
Ah oui, central.
Central. Ensuite, elle va être impliquée dans la Commune de Paris. C'est un téléfilm qui a été produit au moment du centenaire de celle-ci par Cécile Clerval.
Notre garde nationale s'est organisée en une fédération pour faire face à un gouvernement de défense nationale qui a trahi nos aspirations. Des bruits courts que le gouvernement veut nous retirer les canons que nous avons payés. Je rappelle que le gouvernement de Thiers a déjà pris toute une série de mesures inacceptables. On attente à nos droits les plus fondamentaux. Soyez braves, soyez courageux et soyez vigilants, ne vous laissez pas spolier.
Citoyens, assez de militarisme. Plus d'état-major galonné et doré sur toutes les coutures. Place au peuple, aux combattants aux bras nus. L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné. Comité de salut public. Que tous les bons citoyens se lèvent. Aux barricades. En avant pour la République, pour la Commune et pour la liberté. Aux armes!
Toujours le thème du fusil et de l'urne, parce que l'urne vient de désigner une assemblée législative majoritairement monarchiste, issue des villes et des campagnes, des villes de province et des campagnes. Et la garde nationale de Paris et ses fusils s'opposent.
Oui, alors sauf que elle a surtout désigné une assemblée pacifiste. Or, il se trouve que les pacifistes, c'était les monarchistes. Donc, l'interprétation du vote de février 71, en faisant un vote favorable à la monarchie et défavorable à la République, est en fait assez, c'est faux. C'est un vote favorable à la paix et défavorable à la guerre. Les républicains soutenant la guerre, les départements qui ont voté républicains, donc qui ont voté la guerre, c'est Paris. Bon, mais Paris était une ville républicaine, donc il n'y avait pas de problème. Mais c'est aussi l'Alsace-Lorraine. Pourtant, ils n'étaient pas républicains. C'est juste qu'ils voulaient pas se retrouver du côté des Allemands. Donc, c'est difficile d'opposer ce vote. Cela dit, l'Assemblée, de facto, était monarchiste et Paris était une ville républicaine et s'est dressée contre son Assemblée monarchiste.
Ça va être la fin des haricots, vous parliez de l'hôtel des haricots, pour la garde nationale, mais quand même, à vous écouter, on a l'impression que c'est extrêmement dangereux de créer une garde nationale pour un gouvernement.
Bah non, s'il ne va pas à l'encontre des libertés. C'est-à-dire que c'est dangereux à partir du moment où il est oppresseur, mais sinon, comme la garde nationale défend les libertés et la souveraineté en armes...
Oui, mais enfin, c'est un peu contradiction avec le principe de la démocratie représentative.
Ah, ça, c'est en contradiction, parce que le principe de la démocratie représentative réduit le citoyen à l'électeur. La création de la garde nationale implique une autre façon de considérer le citoyen, beaucoup plus actif, beaucoup plus en acte, beaucoup plus impliqué. Ce que le gouvernement représentatif et la réduction du citoyen à l'électeur, qui d'ailleurs très vite seront plus en urne, c'est effectivement contraire à la garde nationale.
Dites-moi, est-ce que tous ces éléments sont pris en compte par ceux qui recommandent au pouvoir actuel de faire renaître une garde nationale? Parce que d'un côté, il y a les formes de service civique. De l'autre, si on laisse à part l'engagement stricto sensu dans l'armée de métier, il y a maintenant des possibilités expérimentales de service militaire volontaire. À entendre Pierre Servent, journaliste et colonel de réserve, on pourrait imaginer aussi du civico-militaire.
L'idée de la garde nationale, telle que je la comprends, elle doit être territorialisée. Je propose le fait de recréer un service civico-militaire de 6 mois pour les garçons et les filles. Bon, civico-militaire, pourquoi? Parce qu'il faut que tous les jeunes Français et Françaises aient au moins 3-4 semaines de formation militaire. Et ceux qui seraient volontaires pourraient faire les 6 mois entièrement militaires de formation pour aller après vers la garde nationale, parce qu'il faut des gens formés. Regardez les pompiers volontaires dans toute la France, qui sont, encore une fois, agriculteurs, boulangers, etc. Ils reçoivent sur leur SMS, il y a un accident de la route grave, il y a un incendie. Le gars, il quitte son boulot, il va chez lui, il met sa tenue de pompier, il part à la caserne de pompiers, il prend son véhicule et il va sur le lieu de la catastrophe. La garde nationale, dans mon esprit, doit avoir cette même réactivité, cette même mobilité, de façon à couvrir l'ensemble du territoire national. Le terrorisme, c'est pas terminé, on en a pour 30 ans, et il va falloir mailler le territoire national dans lequel vous avez des déserts militaires.
Pierre Servent, RMC, novembre 2015, Mathilde Larrère.
Pour moi, c'est pas la garde nationale de la tradition révolutionnaire française, ça c'est le modèle plus américain, c'est une garde nationale de réservistes. Le modèle français, c'est tous les citoyens qui font tout au long de leur vie un service de maintien de l'ordre, avec possibilité qu'ils soient envoyés en France aux frontières si la France est attaquée. Donc c'est pas la même chose.
C'est-à-dire que c'est un modèle, allez, je vais dire aussi, churchillien. Churchill disait, le réserviste est deux fois citoyen. C'est pas le modèle français.
Non, le modèle français, c'est tous les citoyens. La souveraineté est à la fois une souveraineté dans les urnes, mais une souveraineté dans les armes aussi.
Mais justement, il y a tout de même la même difficulté qui se pose aux États-Unis et en France. S'il y avait une garde nationale, c'est la multiplication des armes chez les citoyens.
Oui. Mais en même temps, par exemple, ça existe aussi... Enfin, ça, c'est quand même un autre...
Je sens que vous allez me parler de la Suisse.
Oui, c'est ça. Il y a aussi dans le modèle suisse, et un modèle de milice. Hein. Mais la garde, c'est pas une armée, la garde. Hein. C'est vraiment... C'est le peuple en armes. C'est la possibilité. Faut vraiment... Enfin, c'est aussi la façon d'armer le peuple pour que, au cas où, il puisse résister à l'oppression. Et ça, c'est jamais envisagé dans ces réminiscences surprenantes actuelles de la garde nationale.
Lionel Fusy, votre prochain livre aux presses universitaires de France. Merci à vous, Mathilde Larrère. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Martin Cellier, Franck Oliva, Frédéric Martin, Linka Negulesco, Guillaume Scaillet. Est-ce que j'ai cité le nom d'un autre Guillaume Roux, à la technique. Mathieu Vidard.
Eh bien, roux comme le renard, justement, Jean. Du goupil au renard, ce sera l'émission aujourd'hui. Rencontre avec ce mammifère prédateur.
Et opportuniste, dites-vous.
Absolument.